Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 30e dimanche. Ils viennent à Jéricho. Comme Jésus sort de Jéricho avec ses disciples, et une foule assez nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, est assis au bord du chemin. Il entend que c'est Jésus le Nazaréen. Il se met à crier en disant
« Fils de David, Jésus, sois miséricordieux pour moi. »
Plusieurs le rabrouent pour qu'il se taise, mais lui, il crie de plus belle
« Fils de David, sois miséricordieux pour moi. »
Jésus s'arrête et dit
« Appelez-le. »
Ils appellent l'aveugle et lui disent
« Confiance, lève-toi, il t'appelle. »
Celui-ci rejette son manteau, bondit et va vers Jésus. Jésus lui répond et dit
« Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
L'aveugle lui dit
« Rabboni, que je voie à nouveau. »
Jésus lui dit
« Va, ta confiance t'a sauvé. »
Et aussitôt il revoit et se met à sa suite sur le chemin.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, voilà un récit de miracle qui peut peut-être surprendre. Et pour ceux qui seraient avides de détails spectaculaires sur le comment de la guérison, eh bien, la description de Marc sera une déception. Une toute petite phrase et aussitôt il revoit, décrit la guérison miraculeuse. On peut penser que cette sobriété est un indice que cette catéchèse sur l'aveugle de Jéricho ne veut pas seulement décrire un miracle physique, mais qu'elle veut donner un autre enseignement. Et c'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Alors où se trouve ce récit? Il fait suite à la demande des disciples Jacques et Jean qui désirent siéger dans le règne de Dieu, l'un à la droite du Christ et l'autre à sa gauche. Cet épisode qui dénote l'inconscience de ses disciples, trop préoccupés de promotion, s'achève par cette parole cruciale du Christ. « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » La guérison de l'aveugle Bartimée sera immédiatement suivie de l'entrée de Jésus comme Messie dans la ville de Jérusalem. Nous sommes donc presque au terme de cette longue montée vers la ville sainte, une montée qui va s'achever par la mort du Christ, là où la mission de Jésus va s'accomplir. Eh bien, c'est sur ce fond de scène de la Passion que nous devons lire l'épisode de l'aveugle. Le miracle de Jéricho devrait nous aider à mieux comprendre la Passion de Jésus.
Ils viennent à Jéricho. Comme Jésus sort de Jéricho avec ses disciples et une foule assez nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, est assis au bord du chemin.
Jéricho est une localité par laquelle on pénètre en Israël quand on vient du nord du pays. Cette bourgade est située à 27 kilomètres de Jérusalem. On l'appelle la ville des palmiers. Hérode le Grand avait fait construire là un somptueux palais. Il y avait aussi un hippodrome et un amphithéâtre. La ville de Jéricho est reliée à Jérusalem à travers le désert de Juda par une route qui, au temps de Jésus, était escarpée et donc très favorable au brigandage. On se souviendra de la parabole du bon samaritain et de l'homme attaqué par les brigands. Cette parabole se situe précisément sur cette route de Jéricho à Jérusalem. Eh bien, Jésus et ses disciples sortent de la ville et ils sont accompagnés d'une foule, une foule assez nombreuse. Luc dira même que la foule était tellement dense que Zachée, pour voir Jésus, a dû monter sur un arbre. La sortie de la ville était une bonne place pour quémander. On quémandait auprès des nombreux pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Il y a un contraste frappant entre tout ce monde qui est en mouvement sur la route, comme nous le dit le récit de l'Évangile, et cet aveugle mendiant qui, lui, est assis au bord du chemin. À l'époque, l'aveugle est un marginal par rapport à la société, car il ne peut pas travailler pour gagner sa vie, et donc il doit mendier. Au bord du chemin peut donc signifier qu'il est hors du chemin de tout le monde, comme Zachée, qui lui-même était un exclu de la société parce qu'il était publicain, il travaillait avec les Romains. Eh bien, Zachée, Jésus va venir le sauver. Ainsi, Bartimée est-il lui aussi un exclu qui va demander que Jésus le sauve.
Il entend que c'est Jésus le Nazaréen. Il se met à crier en disant « Fils de David, Jésus, sois miséricordieux pour moi ».
L'aveugle Bartimée entend donc nommer le nom de Jésus. Ce nom juif, on le sait, veut dire « Dieu sauve ». Lui donc, l'aveugle, le mendiant, sait par l'expérience de son handicap d'être aveugle qu'il a besoin d'être sauvé. Non seulement il a besoin de voir, mais il a besoin d'être réintroduit dans la communauté. Il espère revoir pour ne plus être un exclu, pour ne plus être condamné à la mendicité. Et donc, dès qu'on lui annonce la présence de Jésus le Nazarénien, il va crier vers lui en l'appelant « Fils de David ». Fils de David, c'est le titre qu'on donnait à ce Messie que beaucoup alors espéraient. Cela fait référence à la promesse de Dieu faite à David que l'on trouve dans le deuxième livre de Samuel.
La parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, le Seigneur te fera une maisonnée. Quand tes jours seront accomplis, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi, ton trône sera affermi à jamais. »
Dans le contexte de l'époque où Israël est occupé par les Romains depuis près d'un siècle, on attendait de Dieu un roi Messie qui surgirait de la descendance de David. Cependant, devant ce cri de reconnaissance du fils de David en la personne de Jésus, l'Évangile nous dit que beaucoup rabrouent l'aveugle pour qu'il se taise.
Comment comprendre cette réaction?
C'est en effet la première fois dans le récit évangélique de Marc que Jésus est désigné comme fils de David. On sait que Jésus a toujours imposé le silence lorsque des gens le désignent comme le Messie. Donnons quelques citations.
Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons parce qu'il savait qui il était. Mais pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Pierre lui répond, tu es le Christ. Alors il leur enjoignit de ne parler de lui à personne.
Dans la situation politique d'alors, se déclarer roi Messie, c'est quelque chose de terriblement dangereux. On s'expose à l'arrestation par les Romains et donc à la mort. Marc nous a déjà décrit la frayeur de ceux qui accompagnent Jésus à Jérusalem.
Il était en chemin et montait à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient effrayés et ceux qui y suivaient avaient peur.
Depuis que Jésus a annoncé son arrestation et sa condamnation comme étant imminente, la crainte des disciples semble s'amplifier de jour en jour. On a un écho de cette peur dans le récit évangélique de Jean lorsque Jésus apprend que son ami Lazare est malade et qu'il décide de retourner le voir dans le village de Béthanie où Lazare habite, un village qui est très proche de Jérusalem.
Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment encore les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner là-bas ?»
Mais Jésus semble ne plus s'inquiéter des dangers qu'il encourt. Il a choisi de monter à Jérusalem pour y affronter ceux qui veulent sa mort. Il ne craint plus qu'on puisse le prendre pour un messie politique.
Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ».
Il semble bien que Jésus ne peut pas supporter qu'on rabroue cet aveugle. Un aveugle qui vit déjà l'exclusion à cause de son handicap. Alors, Jésus va changer le regard des disciples envers ce marginal, comme il l'a fait d'ailleurs précédemment dans l'Évangile, lors de l'épisode des enfants.
On lui présentait des petits-enfants pour qu'il les touchât. Mais les disciples rabrouèrent. Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le règne de Dieu. »
Je crois qu'on a ici comme un absolu de la pratique de Jésus et de son évangile. Le plus humble, le plus rejeté, pour Jésus, il doit être considéré comme un fils et une fille de Dieu. Tout être humain doit être unique à nos yeux, parce qu'il est unique aux yeux de Dieu. L'intervention de Jésus va en effet changer le comportement de ceux qui l'entourent. Le ton change, les gens semblent maintenant porter de la considération à l'aveugle.
Ils appellent l'aveugle et lui disent « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» Fils de David, sois miséricordieux pour moi.
On traduit souvent « sois miséricordieux » par « aie pitié de moi ». Ce qui est exact si on donne au mot « pitié » le sens de miséricorde. Mais le mot « pitié » prend souvent aujourd'hui un sens de condescendance qu'on ne trouve ni dans le grec « kyrie eleison » ni dans l'hébreu « la resed ». Dans son cri, le mendiant aveugle fait appel à la miséricorde du Messie. Le mot « miséricorde » est formé de deux mots, misère et cœur. Il décrit donc celui dont le cœur est sensible à la misère de son prochain. Dans notre vie en société, face à celui qui est différent, différent soit par sa maladie ou différent par son comportement, la première réaction est souvent celle de l'exclusion. Mais Jésus, lui, oriente sa conduite sur celle de son Père, la miséricorde de Jésus et l'attitude qui correspond à l'attitude de Dieu qui est toujours grâce, amour gratuit. Dieu aime sans condition les bons et les pécheurs. Comme le dit l'Évangile, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et c'est ainsi, gratuitement, que doit aimer celui et celle qui veulent devenir fils et filles de Dieu, puisque le Messie est tout particulièrement le Fils de Dieu, c'est donc à la bonté de ce Fils bien-aimé du Père qu'est Jésus que Bartimée fait appel. Et c'est cette confiance en la force de la miséricorde qui va le sauver, comme cela l'a été pour Zachée, à qui Jésus a fait l'honneur de descendre chez lui et de partager sa table.
Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maisonnée, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu.
Oui, faire appel à la bonté, c'est accueillir en soi la force de vie qu'apporte cette bonté. L'aveugle souffre non seulement de cécité, mais on l'a dit, il souffre d'exclusion. Parce qu'il ne se sent pas aimé, il ne croit pas en l'amour. Jésus, c'est aller chercher le meilleur de la personne souffrante. Et cela pour lui redonner confiance en l'amour. Car l'amour est puissance de vie pour relever celui qui est blessé.
Celui-ci rejette son manteau, bondit et va vers Jésus.
Le manteau, c'est souvent l'unique bien que possède le pauvre. Rappelons ce qu'en dit le livre de l'Exode au chapitre 22e.
Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui rendras au coucher du soleil. C'est sa seule couverture, c'est le manteau dont il enveloppe son corps. Dans quoi se couchera-t-il? S'il crie vers moi, je l'écouterai, car je suis compatissant, moi.
Le vêtement, c'est aussi ce qui exprime la personnalité de la personne qui le porte. Pour le mendiant, le manteau est peut-être aussi ce qui lui permet de recueillir les aumônes. Alors, le fait de rejeter son manteau, bien cela signifie peut-être que Timée quitte sa condition de mendiant. Parce que Jésus porte sur lui un regard qui le considère, Timée quitte sa condition d'exclu, sa vie est transformée. Il ne sera plus le même, il a été regardé. Il sait maintenant que, pour le fils de David, il n'est plus un exclu, mais qu'il est aimé. De même, d'ailleurs, le regard de Zachée, de Jésus sur Zachée avait changé son cœur.
« Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. »
Eh bien, on dit « Bartimée bondit ». Alors, grâce à sa confiance, sa confiance à celui qui lui fait confiance. Timée est maintenant un homme debout. Debout parce qu'il a foi, désormais, que l'amour est plus fort que tout handicap physique.
Jésus lui répond, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabboni, que je vois à nouveau. » Jésus lui dit, « Va, ta confiance t'a sauvé. »
Parce qu'il s'est senti aimé, parce qu'il s'est senti considéré par Jésus, Timée est sauvé. Sauvé parce que sa vie a pris un sens. Il se sent appelé à devenir un être libre. Libre parce que libéré de ce handicap qu'est la désespérance de celui qui ne croit plus en l'amour. Jésus a prononcé, on s'en souvient, les mêmes paroles à l'égard de la femme souffrante d'hémorragie et qui avait osé toucher son vêtement. « Ma fille, ta foi, ta confiance t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Cette confiance en Jésus se traduit peut-être par le nouveau nom que Timée donne maintenant à Jésus, « Rabbouni ». Ce titre, c'est celui que le disciple donne à son enseigneur, à son maître, et qu'il donne pour manifester sa révérence et son affection. La nouvelle relation entre Timée et Jésus doit être maintenant celle d'un disciple envers son maître. L'Évangile nous dit que désormais Timée va suivre Jésus.
Et aussitôt, il revoit et se met à sa suite sur le chemin.
On sait que cette expression, se mettre à la suite de quelqu'un, c'est une façon de dire qu'on est disciple. Rappelons aux deux couples de frères, André et Simon, Jacques et Jean, ce que Jésus a dit.
« Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite.
On peut aussi se rappeler l'appel adressé à Lévi, celui qui était assis au bureau des taxes.
Il lui dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit.
Eh bien, Timée ne peut plus rester assis. Il a découvert celui qui va lui transmettre la vraie sagesse de la vie, celui dont il va devenir le disciple, celui auquel il va s'attacher de toute sa personne.
En quoi ce miracle de Jéricho peut-il nous aider à mieux comprendre la passion de Jésus?
La place de cet épisode, de la guérison d'un aveugle dans le récit de Marc, est sans doute signifiante. Je pense qu'il faut toujours nous rappeler que tout passage d'évangile est conçu comme une catéchèse et que ce n'est pas simplement la pure recension d'un fait de l'histoire de Jésus. L'évangile n'est pas un roman sur la vie de Jésus. C'est un texte souvent sobre qui veut nous inviter à la méditation afin que les gestes et les paroles de Jésus s'impriment en nous pour devenir source d'inspiration pour notre vie. On a dit que cette guérison se situe juste avant l'entrée à Jérusalem où la foule va acclamer Jésus. Et cela sera suivi des derniers jours qui verront l'arrestation et la mort du maître. Nous sommes donc au terme de la longue montée vers Jérusalem. Or, celle-ci a commencé après la proclamation de Simon-Pierre à Césarée de Philippe. C'est en effet après que Pierre aura donné à Jésus le titre de Messie que Jésus va annoncer que sa passion est prochaine. Or, cette reconnaissance par Pierre et par les disciples que Jésus est Messie, elle vient aussi après une autre guérison d'aveugle. Alors il y a peut-être un parallèle à faire entre ces deux séquences où se succèdent guérison et reconnaissance de Jésus comme Messie. La première fois, la guérison physique de l'aveugle veut peut-être annoncer la guérison spirituelle des disciples, leur capacité de reconnaître que leur maître est vraiment le Messie. Jusqu'alors, ils n'avaient pas compris la signification du grand repas des pains multipliés.
Il leur dit, « Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas. Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne point entendre ?»
Mais cette guérison de leur cécité et de leur incompréhension demeure encore incomplète. En effet, si Pierre donne à Jésus le titre de Messie, il ne saisit pas encore la mission de Jésus telle que le maître la comprend, parce qu'il se refuse à ce que Jésus se livre aux autorités de Jérusalem, et alors, lorsqu'il rabroue son maître, il va se voir traité de Satan.
Il admoneste Pierre et dit, « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Tout au long du chemin vers Jérusalem, le récit sera scandé par l'enseignement de Jésus, un enseignement qui veut faire comprendre pourquoi il doit livrer sa vie.
Qui veut sauver sa vie la perdra. Quel avantage à l'être humain à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Et si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude.
Si Jésus accepte d'être le Messie, le Fils de David, il n'envisage pas sa mission comme celle d'un chef, qui délivrerait le peuple de l'occupation romaine et qui le ferait par la violence de la guerre. Pour Jésus, la violence ne libère pas vraiment, parce qu'elle emploie les mêmes moyens que ceux qui oppriment. Elle porte en elle-même un engrenage d'oppression et de haine. Relevons ce que Jésus dit lors de son arrestation.
Un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, il dégaina, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. »
Et même si l'on sort vainqueur du conflit, dans la mesure où l'on aura pris des moyens de violence, on sera finalement vaincu par l'esprit de haine et de mépris de l'adversaire. Car lorsque l'on a détruit l'image divine dans un être humain, eh bien on l'a détruit aussi chez tous et à commencer par soi-même. En appelant Jésus Rabouni, l'aveugle a-t-il vraiment compris qui est Jésus? Or, le cri de Bartimée, fils de David, va être repris par les foules à l'entrée de Jérusalem.
Et ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient de notre père David. »
Est-ce que ces foules sont vraiment clairvoyantes? Est-ce qu'elles ont compris la démarche du maître? Ou est-ce qu'elles ne sont pas encore, elles aussi, aveugles? N'attendent-elles pas que Jésus manifeste une puissance divine pour vaincre par la force les ennemis d'Israël? Mais on le sait, Jésus n'entrera pas dans Jérusalem monté sur un char de guerre. Il montera un petit ânon dans la simplicité du serviteur. Et il n'aura pas d'autre arme que cette miséricorde dont il veut inonder le cœur de ses disciples. Dans les guérisons qu'il fait, Jésus ne veut pas manifester la puissance d'un Dieu très haut, mais il invite au contraire à une communion dans l'amour, une communion qui sauve les cœurs. Rappelons de très belles lignes de François Varillon dans son livre « L'humilité de Dieu ».
Jésus qui touche les yeux d'un aveugle ou met debout un paralytique permet d'entendre les battements du cœur de Dieu. Il n'invite pas à voir des prodiges. Pas trace de mise en scène, Jésus ne sonne pas du corps. Aux infirmes guéris, il interdit sévèrement d'en sonner. Le miracle atteste un Dieu sensible et frémissant qui nous saisit au plus bas pour nous élever au plus haut. L'exigence suprême de l'amour sera de transformation et de dépassement, car si Dieu s'est fait homme, c'est afin que l'homme soit fait Dieu.
Pour Jésus, le Messie, fils de David, est semblable à ce serviteur qui a été décrit par Isaïe, ce serviteur qui invite à vivre lent de grâce, c'est-à-dire à vivre de bonté envers tous et en priorité avec les exclus.
L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. cet aveuglement n'est-il pas toujours notre handicap? Qui que nous soyons, ne sommes-nous pas tentés par la violence?
Oui. Posons-nous la question, sommes-nous vraiment sûrs de croire en la force de la bonté? Est-ce que nous n'avons pas plutôt l'instinct de croire en la force du pouvoir? Est-ce que nous n'avons pas comme des instincts de violence? Car nous sommes tous, à un moment ou à un autre, le plus fort, qui peut abuser de son pouvoir envers un plus faible. Il est en effet plus spontané d'imposer son point de vue par la force des arguments, sinon par la force des armes, que celle de se mettre à l'écoute de l'autre. Mais non-violence ne veut pas dire qu'il faille s'écraser devant celui qui nous opprime. Qu'ils aient raison ou non, les opposants à la mondialisation qui est prônée par le FMI ou la Banque mondiale témoignent d'une volonté de refuser l'exploitation des pauvres par les riches. Et toutes ces femmes qui ont organisé une marche mondiale, elles ont, comme elles le disent, 2000 bonnes raisons de marcher pour que ça change. En effet, dans le monde, 70% des femmes vivent sous le seuil de la pauvreté. Les femmes accomplissent 70% des heures travaillées dans le monde et elles ne perçoivent que 10% des revenus. Il y a encore, en l'an 2000, 110 millions de filles entre 4 et 14 ans qui sont des travailleuses. Mais cette marche mondiale, au bruit des boîtes de conserve et des casseroles, est-ce qu'elle n'est pas finalement plus forte que les cocktails Molotov et les jets de pierre? Terminons par ces quelques paroles du chant de la marche des femmes qui présente vraiment l'écho des cris de l'Évangile.
Pauvreté et exclusion sont ce que nos voix dénoncent. Il ne faut plus nous taire. Refusons la violence, trop de femmes en ont payé le prix. Nous marchons réunis et dans le monde les femmes se lèvent. Femmes de fougue, femmes de courage, femmes de solidarité, femmes à l'œuvre et femmes en marche, femmes de cœur et d'amitié. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
Le numéro 256-4110.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.